Bien, nous reprenons, si vous voulez bien, et pour cette dernière séance, notre invité est John Elster. Alors, je ne sais pas si l'usage veut qu'on présente l'orateur lorsque c'est un collègue du Collège de France, je ne sais pas, mais comme vous ne le connaissez peut-être pas tous, je ne sais pas si nous avons les mêmes auditeurs dans nos deux cours, je dirais quand même quelques mots. John Elster est donc le titulaire au Collège de France de la chaire de rationalité et sciences sociales, et parmi de nombreuses directions de travaux, puisque ces ouvrages sont importants et qu'il y en a un grand nombre, il y a un fil continu depuis la fin des années 70 de réflexion qui inclut la littérature, notamment depuis un livre de 1983 qui s'appelle « Sour Grapes », mais je pense surtout à la réflexion qu'on trouve sur Stendhal dans un article qui s'appelle Deception and Self-Deception in Stendhal, et on va revenir à cette notion de self-deception dans un moment, dans l'exposé, un article de 1985, ou dans son livre qui s'appelle Alchemies of the Mind, Rationality and the Emotions, publié en 1999. Donc ce qui m'intéresse et ce qui nous réunit, c'est le fait que John Elster fonde beaucoup de ses analyses sur des exemples provenant de la littérature et notamment de Proust aujourd'hui. J'ajouterai que ce qui nous a aussi rapprochés, c'est que avant de venir au Collège de France, nous étions tous les deux professeurs à Columbia et que nous avons été donc collègues dans plusieurs institutions. Le titre de son propos aujourd'hui est L'aveuglement volontaire, traduction donc de self-deception que nous pouvons accepter. À toi.
Bon, merci Antoine. En France, les cartésiens ont eu beaucoup de mal à admettre la théorie newtonienne de la gravitation, et notamment l'idée d'une action à distance. Comment, se demandait-on, un objet peut-il agir là où il n'est pas? Le problème ne fut résolu qu'en 1915, quand Einstein proposa la théorie générale de la relativité. 20 ans plus tard, Einstein fit une objection cartésienne contre la mécanique quantique, en affirmant que celle-ci présuppose ce qu'il appela alors une action surnaturelle à distance, spukhafte Fernwirkung. La théorie prédit en effet que lors de l'émission de deux particules corrélées, dont les propriétés sont indéterminées jusqu'au moment où on les mesure, l'observation de la valeur de cette propriété pour l'une des particules implique nécessairement une valeur déterminée pour l'autre particule. C'est comme si deux personnes jouaient au dé à des kilomètres de distance, le premier amenant toujours 5 quand l'autre amène 1, 4 quand l'autre amène 2, et ainsi de suite. Pour Einstein, c'était une absurdité métaphysique. En 1982, Alain Aspect a pourtant démontré l'existence empirique du phénomène, souvent appelé imbrication ou enchevêtrement. Dans la théorie des jeux expérimentaux, on constate parfois que les gens se comportent comme si leur choix était enchevêtré de cette manière. Puisqu'il s'agit bien, dans leur cas, d'une impossibilité physique, il faut interpréter le comportement en termes d'une pensée magique qui présuppose la possibilité d'une action surnaturelle à distance, selon l'expression d'Einstein. Et on peut illustrer ce cas de figure par l'exemple le plus célèbre de la théorie des jeux, le dilemme du prisonnier. On peut peut-être baisser la lumière. Donc, les deux prisonniers sont accusés d'avoir commis un crime ensemble, mais les preuves existantes sont insuffisantes pour les faire condamner à plus d'un an de prison chacun. Pour obtenir des preuves plus solides, la police les place dans des cellules séparées et les informe des contingences indiquées. À supposer que le seul but des prisonniers soit de passer le moins de temps possible en prison, on constate que chacun d'eux a toujours intérêt à dénoncer l'autre, quel que soit le choix de ce dernier. Bien que les deux aient un intérêt collectif à se taire, celui-ci n'a aucune prise sur leur situation. Même si cet exemple est artificiel, il existe de nombreux cas réels qui présentent la même structure. Si les agents ont, par exemple, le choix entre polluer et ne pas polluer, la même logique conduit au choix de polluer. Dans les innombrables études expérimentales qui ont été conduites pour observer comment des sujets se comportent dans de telles situations, on observe parfois le choix de la stratégie coopérative, à savoir celle qui donne le meilleur résultat quand elle est choisie par les deux sujets. C'est notamment le cas lorsque les sujets se ressemblent par certains aspects, comme le niveau d'éducation ou l'affiliation politique. Le raisonnement qui conduit à ce choix peut alors se reconstruire de la façon suivante. Si je fais le choix coopératif, il est probable que mon partenaire en fera autant. Puisqu'il est constitué comme moi, il agira comme moi. Le raisonnement repose sur une confusion évidente entre la valeur causale et la valeur diagnostique d'une action, mais il n'en est pas moins répandu. Et nous avons tous, je le pense, eu l'occasion de nous demander « Si moi, je ne le fais pas, qui alors le ferait ?» Et je renvoie notamment à cet article classique. Donc, j'en arrive maintenant à Proust. Puisque bien avant Einstein, Alain Aspect ou la théorie des jeux, Proust a su identifier le mécanisme de l'enchevêtrement. Le narrateur prête abord à Saint-Loup et propose ensuite, de manière plus générale, la question rhétorique suivante. Si moi, je ne lui suis pas fidèle, pourquoi me le serait-elle? C'est en effet, comme on va le voir, un thème récurrent dont se sert le narrateur non seulement pour son importance intrinsèque, mais également comme une analogie ou pour faire contraste avec d'autres cas de figure. Lors d'une première occasion à Balbec, le narrateur cherche à s'assurer l'assistance de Saint-Loup dans son effort pour faire la connaissance d'une certaine jeune fille. À cette fin, dit-il, il croit pouvoir compter sur cette même curiosité de naturaliste humain que si souvent j'avais eu de faire connaissance avec une nouvelle variété de la beauté féminine. Or, cette curiosité, c'est à tort que j'avais espéré l'exciter chez Saint-Loup en lui parlant de mes jeunes filles, car elle était pour longtemps paralysée en lui par l'amour qu'il avait pour cette actrice dont elle était l'amant. Et même l'eût-il légèrement ressenti qu'il y réprimait à cause d'une sorte de croyance superstitieuse que de sa propre fidélité pouvait dépendre celle de sa maîtresse. Et Rachel, se trouvant à ce moment sans doute à Paris, il sait bien d'une action surnaturelle à distance qu'il s'agit. Dans Albertine disparue, le narrateur reprend la même idée dans le contexte d'une méditation sur les morts, à laquelle Antoine Compagnon vient aussi de faire allusion tout à l'heure. Il constate que tous ses sentiments et toutes ses pensées se reportent à Albertine. Et il se pose donc la question suivante. Peut-être si elle l'avait su, eût-elle été touchée de voir que son amie ne l'oubliait pas, maintenant que sa vie à elle était finie, et elle eût été sensible à des choses qui auparavant l'eussent laissée indifférente. Mais comme on voudrait s'abstenir d'infidélité, si secrète fût-elle, tant on craint que celle qu'on aime ne s'abstienne pas, j'étais effrayé de penser que si les morts vivent quelque part, ma grand-mère connaissait aussi bien mon oubli qu'Albertine mon souvenir. Et tout compte fait, même pour une mère morte, est-on sûr que la joie qu'on aurait d'apprendre qu'elle sait certaines choses balancerait l'effroi de penser qu'elle les sait toutes. La logique du passage est claire. Admettre une connaissance chez les morts de ce qui se passe chez les vivants est une opération de l'imagination qui ne saurait se faire de manière sélective à propos de certains morts ou de certaines connaissances seulement. Ou bien il faut donner libre cours à tous ce que pourraient penser de nous tous les morts, ou bien il faut renoncer entièrement, comme le dit Proust, à les garder après leur mort comme amis, de peur de les avoir aussi pour juges. De manière semblable, suggère Proust, l'infidélité sélective de la part de l'une des personnes dans un couple est ressentie comme une situation instable. Ou bien il faut accorder à chacune le droit d'avoir des liaisons en dehors du couple, ou bien le refuser aux deux. Donc, ce qui revient à dire que dans le dilemme du prisonnier, on est limité à choisir uniquement dans la diagonale, entre ces deux cases-là. Tout en étant hardi, l'analogie illumine les lois qui régissent l'imagination, ainsi que les contraintes auxquelles elle est sujette. Pour mon propos ici, je soulignerai seulement la généralité que prend ici l'observation imputée à Saint-Loup. Il n'y a plus question d'une réaction idiosyncrasique de la part d'un individu particulier, mais d'une sorte de principe constitutif ou universel de l'amour jaloux. Proust se sert encore de ce thème lors de l'épisode dont nous ont déjà parlé Antoine Compagnon et Georges Alindy, de la première publication d'un article par le narrateur dans Le Figaro. De manière curieuse, l'action à distance dans la relation d'un individu à la personne aimée est ici contrastée avec l'absence de ce même effet dans la relation d'un auteur à ses lecteurs. En s'apercevant que son article est publié à la première page du journal, le narrateur commence immédiatement à s'inventer des raisons pour lesquelles les lecteurs du Figaro pourraient néanmoins l'ignorer, dont la suivante. Moi-même, je serais bien incapable de dire de qui était le premier article de l'abeille. Et je me promets maintenant de les lire toujours, et le nom de leur auteur. Mais comme un amant jaloux, qui ne trompe pas sa maîtresse pour croire à sa fidélité, je songe tristement que mon attention future ne forcera pas, n'a pas forcé en retour, celle des autres. Avant de commenter ce passage, il me semble intéressant de citer la version légèrement différente et à certains égards plus développée que l'on trouve dans une esquisse de cet épisode, où le narrateur observe que « je me rends compte que bien souvent moi-même, je ne vois pas la signature du premier article. Je me promets dorénavant de toujours le regarder comme un amant jaloux pour se persuader que sa maîtresse ne le trompe pas, ne la trompe plus. Mais hélas, je sais bien que mon attention n'entraînera pas les autres, que ce n'est pas parce que cela arrivera désormais pour moi que je regarderai la première page, que cela me permettra de conclure que les autres font de même. Au contraire, je n'ai pas l'idée que la réalité puisse ressembler tant à mon désir. Comme autrefois, quand j'espérais une lettre de ma maîtresse, je l'écrivais en pensée, telle que j'aurais voulu la recevoir. Puis, sachant qu'il n'était pas possible, le hasard n'étant pas si grand qu'elle m'écrive juste ce que j'avais imaginé, je cessais d'imaginer pour ne pas s'exclure du possible ce que j'avais imaginé pour qu'elle pût m'écrire cette lettre. Comme on le voit par l'usage répété du mot « pour » dans les deux textes, le narrateur impute à son amant jaloux générique l'intention de se faire croire à lui-même, par son action, que sa maîtresse ne le trompe pas. Et c'est précisément de ce sujet de l'aveuglement volontaire que je voudrais vous parler aujourd'hui. Avant de procéder à l'analyse de ce phénomène et des variétés qu'on peut en distinguer, il est intéressant de noter que le narrateur se déclare dans ce texte être incapable pour sa part d'exécuter cette opération mentale, car il affirme fort sagement être conscient du fait que son attention n'entraînera pas celle les autres, n'entraînera pas les autres, et il exclut que la réalité puisse ressembler tant à son désir. Or, à cet égard, le narrateur ne semble pas comprendre que l'exemple qu'il propose dans le second passage, pour illustrer son incapacité à l'aveuglement volontaire, est en effet un exemple de ce phénomène même. Il ne dit pas simplement qu'il cessait d'imaginer, tout court, mais attribue aussi une intention à cette cessation. Tant qu'il n'entretient pas de manière consciente l'espoir de recevoir une lettre, l'arrivée de celle-ci en deviendrait moins improbable. C'est comme l'insomniaque qui se dit « afin de m'endormir, je cesserai de vouloir m'endormir » ou comme Stendhal qui note dans son journal « pour être aimable, je n'ai qu'à vouloir ne pas le paraître ». Car il aurait dû dire, bien sûr, « je n'ai qu'à ne pas vouloir le paraître ». Je note au passage qu'ailleurs, le narrateur se montre pourtant parfaitement conscient de cet effet corrosif de l'intention. Il semble que dans la vie mondaine, la meilleure manière qu'on recherche, c'est de se refuser. Si un homme regrettait de ne pas être assez recherché par le monde, je ne lui conseillerais pas de faire plus de visites, d'avoir encore un plus bel équipage. Je lui dirais de ne se rendre à aucune invitation, de vivre enfermé dans sa chambre, de n'y laisser entrer personne et qu'alors on ne ferait que devant sa porte. Ou plutôt, je ne le lui dirais pas. Car c'est une façon assurée d'être recherché qui ne réussit que si on ne l'a nullement adopté pour cela. Si, par exemple, on garde toujours la chambre parce qu'on est gravement malade ou qu'on croit l'être ou qu'on y tient une maîtresse enfermée et qu'on préfère au monde. Cette petite parenthèse fermée, venons-en à l'aveuglement volontaire. Ce terme, je l'ai choisi surtout à cause de son ambiguïté. Il est possible, en effet, de le comprendre en plusieurs sens distincts. Dans la littérature philosophique anglaise, on parle souvent de « self-deception » que Pascal Engel nous propose de rendre par « duperie de soi-même ». On parle aussi de « wishful thinking » ou du fait de prendre ses désirs pour des réalités. Et les psychologues, quant à eux, parlent de « raisonnement motivé ». Tandis que la duperie de soi-même implique le dualisme d'une croyance consciente et d'une croyance refoulée, celui qui prend ses désirs pour des réalités passe directement à l'opinion que le monde est tel qu'il voudrait qu'il le soit, et il ne nie pas le fait, il les ignore, et n'a donc aucun besoin de les refouler. Cette distinction entre les deux modalités de l'aveuglement volontaire n'est proposée comme une première approximation, car, comme on va le voir tout à l'heure, les choses sont un peu plus compliquées. D'abord, je voudrais pourtant introduire une troisième modalité, qui prend la forme de croyances formées contre ses désirs plutôt que selon ses désirs. Et d'après le vers de La Fontaine, en effet, chacun croit fort aisément ce qu'il craint et ce qu'il désire. Encore une fois, on peut illustrer les deux propositions par la femme infidèle. Monsieur de Rênal, dans Le Rouge et le Noir, qui souhaite vivement que sa femme lui soit fidèle, arrive à croire qu'elle l'est effectivement. Tandis que Othello, craignant qu'elle ne le soit pas, arrive à croire qu'elle le trompe. Et comme l'a bien démontré Joshua Landy, le narrateur chez Proust est sujet aux deux tendances en même temps. En réfléchissant sur la possibilité qu'Albertine lui soit infidèle, il se dit que, par la puissance qu'exerçait sur mon imagination et ma faculté d'être ému, l'exemple de Swann, j'avais été depuis longtemps préparé à croire vrai ce que je craignais, au lieu de ce que j'aurais souhaité. Le narrateur reconnaît pourtant, comme déjà Pascal, le risque de se faire injustice à soi-même par contre-biais. Mais je me dis que s'il était juste de faire sa part au pire, il ne fallait cependant pas que par cruauté pour moi-même, soldat qui choisit le poste non pas où il peut être le plus utile, mais où il est le plus exposé, j'aboutisse à l'erreur de tenir une supposition pour plus vraie que les autres à cause de cela seul qu'elle était la plus douloureuse. Dans son livre, Landy propose des analyses très fines de ce doute vertigineux. Plutôt que de les reproduire ici, je voudrais profiter de l'une des observations pour nuancer ou creuser la distinction entre le wishful thinking et le self-deception que j'ai fait tout à l'heure. Même s'il est vrai que celui qui prend ses désirs pour des réalités ignore les faits plutôt qu'il ne les nie, il peut s'agir d'une ignorance motivée. C'est en effet l'une des thèses principales de Landy que dans l'effort fait par le narrateur pour trouver des preuves de l'infidélité d'Albertine, il choisit systématiquement des témoins et des témoignages peu fiables. Réfléchissant sur l'épisode où le narrateur s'abstient de chercher dans le kimono d'Albertine des lettres qui pourrait lui prouver qu'elle lui est infidèle, Landi écrit que la paix de son âme exige qu'il emploie des ressources suffisantes pour générer en lui l'illusion de connaître la vérité, tout en s'arrêtant avant de prendre le risque de la découvrir effectivement. Donc, je pense qu'on peut expliquer cette distinction conceptuelle de la manière suivante. Prenons d'abord la définition communément adoptée par les psychologues de la duperie de soi-même, qui comporte quatre conditions. Premièrement, l'individu maintient deux croyances contradictoires. Deuxièmement, les deux croyances sont maintenues simultanément. Troisièmement, l'individu n'est pas conscient d'avoir l'une des deux croyances. Et quatrièmement, et c'est décisif, l'acte qui détermine laquelle des deux croyances est sujette à la conscience est un acte motivé. On connaît depuis Sartre les paradoxes qui surgissent dès que l'on se demande quel peut bien être l'acteur de cet acte motivé. Si pourtant on substitue à la duperie de soi-même ce que, suivant Landi, on peut appeler la volonté d'ignorance, le paradoxe disparaît. Car dans la volonté d'ignorance, premièrement, l'individu possède des informations qui lui permettent de croire que le monde est tel qu'il voudrait qu'il le soit. Ensuite, il sait également qu'il pourrait accéder à des informations qui pourraient soit confirmer cette croyance, soit l'invalider. Mais enfin, il s'abstient d'acquérir ces informations supplémentaires. Je voudrais maintenant vous citer un autre passage où l'ignorance motivée prend une forme assez différente. Nous avons vu tout à l'heure que dans sa tendance à croire vrai ce qu'il craint, le narrateur s'inspire de l'exemple de Swann. Or, dans la période qui précède la naissance de la jalousie de Swann à l'égard d'Odette, il se produit un épisode où l'on voit Swann ignorer une idée désagréable plutôt que de la nourrir. Ce merveilleux épisode comporte quatre scènes, dont la première me permet également de développer une idée dont j'ai déjà parlé dans le contexte de la pensée magique. Je vous rappelle que la pensée magique n'est pas une simple opération mentale, mais qu'elle s'appuie sur une action, ou plutôt en fait sur une inaction délibérée. Afin de pouvoir se faire croire à lui-même que sa maîtresse ne le trompe pas, Saint-Loup ne se contente pas de prendre ses désirs pour des réalités, mais s'abstient de la tromper. Je me propose maintenant de généraliser l'idée de la pensée magique de manière à englober sous cette idée toute imputation causale qui enfreint les lois de la nature. Pour reprendre l'exemple du lancer de dés, nous sommes plus disposés à parier sur tel ou tel nombre pendant la seconde où le dé est suspendu en l'air qu'après qu'il a touché le sol tout en demeurant caché, comme si le pari pouvait infléchir le sens de sa chute. Et je vous cite sur ce sujet les travaux suivants. Et j'emprunte un autre exemple à un article déjà cité, dans lequel les auteurs rapportent une expérience que je présente ici sous une forme simplifiée. On demande au sujet de tenir leurs mains dans l'eau glacée jusqu'à ce que cela leur devienne insupportable. Puis on leur demande de faire une minute d'exercice physique et on leur explique ensuite que la durée du temps pendant lequel on peut tenir sa main dans l'eau glacée, après avoir fait de l'exercice physique, est un signe diagnostique d'un certain type de cœur, qui, lui, est une cause de longévité. Enfin, on leur demande de remettre leurs mains dans l'eau glacée, jusqu'à ce qu'ils ne le supportent plus. Et en moyenne, bien sûr, ils tiennent leurs mains plus longtemps dans l'eau la deuxième fois. Là encore, la pensée magique prend la forme d'une confusion entre la valeur diagnostique et la valeur causale d'une action. Les sujets se comportent comme si, en agissant sur les faits, ils pouvaient modifier la cause. Ainsi, puisque ceux qui apprécient les œuvres d'art sont prêts à les payer chèrement, les nouveaux riches qui se veulent connaisseurs d'art en font autant pour se donner la certitude subjective de leur bon goût. Et dans la première scène de l'épisode sur lequel je vais me pencher maintenant, on observe Swann être la victime de ce qu'on a appelé le calvinisme de tous les jours. Quand il réfléchit sur les diverses raisons que peut avoir Odette de le voir dans le présent et dans l'avenir. Pour l'instant, en la comblant de présent, en lui rendant des services, il pouvait se reposer sur des avantages extérieurs à sa personne, à son intelligence, du soin épuisant de lui plaire par lui-même. Et cette volupté d'être amoureux, de ne vivre que d'amour, de la réalité de laquelle il doutait parfois, le prix dont en somme il a payé en dilettante sensation immatérielle, lui en augmentait la valeur. Comme on voit des gens incertains, si le spectacle de la mer et le bruit de ses vagues sont délicieux, sans convaincre ainsi que de la rare qualité de leur goût désintéressé, en louant 100 francs par jour la chambre d'hôtel qui leur permet de les goûter. Puis vient la deuxième scène de l'épisode. Que je vais citer assez longuement. Un jour, que des réflexions de ce genre le ramenaient encore au souvenir du temps où on lui avait parlé d'Odette comme d'une femme entretenue, et où, une fois de plus, il s'amusait à opposer cette personnification étrange, la femme entretenue, et cette Odette, sur le visage de qui il a vu passer les mêmes sentiments de pitié pour un malheureux, de révolte contre une injustice, de gratitude pour un bienfait qu'il avait pu éprouver autrefois par sa propre mère, par ses amis. Cette Odette, dont les propos avaient si souvent trait aux choses qu'il connaissait le mieux lui-même, à ses collections, à sa chambre, à son bien domestique, au banquier chez qui il avait ses titres, il se trouva que cette dernière image du banquier lui rappela qu'il aurait à y prendre de l'argent. En effet, si ce mois-ci, il venait moins largement à l'aide d'Odette dans ses difficultés matérielles, qu'il n'avait fait le mois dernier, où il lui avait donné 5000 francs, et s'il ne lui offrait pas une rivière de diamants qu'elle désirait, il ne renouvellerait pas en elle cette admiration qu'il avait pour sa générosité, cette reconnaissance qui le rendait si heureux, et même il risquerait de lui faire croire que son amour pour elle, comme elle en verrait la manifestation devenir moins grande, avait diminué. On constate ici un glissement intéressant par rapport au passage précédemment cité. Dans le premier passage, la générosité de Swann pour Odette s'explique par sa capacité magique à augmenter aux yeux de Swann la valeur de sa maîtresse. Or, dans le second texte, la fonction de la générosité est plus terre à terre, à savoir celle d'augmenter la valeur de Swann aux yeux d'Odette. Ensuite vient la crise. Alors, tout d'un coup, il se demanda comment, si cela, ce n'était pas précisément l'entretenir. Et je saute la longue parenthèse que vous pouvez lire si vous voulez. Et si on ne pouvait pas appliquer à Odette, depuis qu'il la connaissait, car il ne soupçonna pas un instant qu'il eût jamais pu recevoir d'argent de personne avant lui, ce mot qu'il avait cru si inconciliable avec elle, de femme entretenue. C'est le moment de la crise. Mais puis, il y a la résolution de la crise. Il ne put approfondir cette idée, car un accès d'une paresse d'esprit, qui était chez lui congénitale, intermittente et providentielle, vint à ce moment éteindre toute lumière dans son intelligence, aussi brusquement que plus tard, quand on eut installé partout l'éclairage électrique, on put couper l'électricité dans une maison. Sa pensée tâtonna un instant dans l'obscurité, il retira ses lunettes, en essuya les verres, se passa la main sur les yeux et ne revit la lumière que quand elle se retrouva en présence d'une idée toute différente, à savoir qu'il faudrait tâcher d'envoyer le mois prochain 6 ou 7 000 francs à Odette au lieu de 5, à cause de la surprise et de la joie que cela lui causerait. Il faut sans doute interpréter l'idée un peu mystérieuse de paresse d'esprit providentiel dans le sens d'un aveuglement volontaire. Et providentiel, selon le Robert, ce qui arrive opportunément par un heureux hasard. Il faut pourtant croire que Proust a voulu dire que la paresse de Swann venait précisément non pas du hasard, mais de son besoin de ne pas s'attarder sur l'idée d'Odette comme d'une femme entretenue. Et il serait faux, je le pense, d'interpréter cette scène en termes de refoulement et d'inconscient. De même, lorsque Pascal note que le monde ordinaire a le pouvoir de ne pas songer à ce qu'il ne veut pas songer, il n'écrit pas un précurseur de Freud, mais un observateur de la vie de tous les jours. Il s'agit simplement de tourner son attention vers autre chose, que ce soit par un haussement mental des épaules ou par la coupure de l'électricité mentale. Le fait que nous ne comprenions pas exactement comment cela se passe n'est pas une raison pour nier l'existence du phénomène, ni pour en chercher l'explication dans le refoulement. Je reviendrai vers la fin de l'exposé à ces idées, mais d'abord, je voudrais maintenant évoquer un thème nietzschéen. On sait que Proust a peu ou mal connu Nietzsche. De nombreux auteurs ont pourtant récemment observé des ressemblances frappantes chez les deux auteurs. Selon Landy, Nietzsche et Proust seraient arrivés indépendamment l'un de l'autre à des conclusions semblables sur plus d'un point. Je voudrais, quant à moi, signaler trois passages où Proust s'exprime en des termes très proches de ceux d'un topos nietzschéen important. Et de plus, on verra que les deux derniers textes présentent des différences intéressantes entre eux. Dans l'atelier ténébreux où se fabriquent les valeurs, nous dit Nietzsche, un mensonge doit transformer la faiblesse en mérite. Il continue ainsi. Et l'impuissance qui n'use pas de représailles devient par ce mensonge la bonté, la craintive bassesse l'humilité, la soumission à ce qu'on est obéissance. Ce qu'il a d'inoffensif chez l'être faible, c'est lâcheté même dont il est riche et ce qui chez lui est dans tes chambres et doit attendre la porte, inévitablement se part ici d'un nom bien sonnant et s'appelle patience, parfois même vertu, ne pas pouvoir se venger devient ne pas vouloir se venger, et parfois même pardon. Cette transmutation du « je ne peux pas » en « je ne veux pas » est aussi un thème proustien. Et j'en citerai trois exemples, dont le premier, qui est aussi le moins important, rapporte un simple échange sans aucune réflexion de la part du narrateur. Dans une soirée chez la marquise de Sainte-Verte, a lieu un bref dialogue au sujet de Swann, entre la princesse des Lombes, L'homme, laquelle n'a pas encore pris le titre de duchesse de Guermantes, et sa parente, Madame de Galardon. Oriane, ne te fâche pas, reprit Madame de Galardon, qui ne pouvait jamais s'empêcher de sacrifier ses plus grandes espérances sociales et d'éblouir un jour le monde au plaisir obscur, immédiat et privé de dire quelque chose de désagréable. Il y a des gens qui prétendent que ce monsieur Swann, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas recevoir chez soi. Est-ce vrai? Mais tout. « Tu dois bien savoir que c'est vrai, » répondit la princesse Télôme, « puisque tu l'as invité 50 fois et qu'il n'est jamais venu. » La deuxième épisode a lieu à Balbec, où le narrateur observe le comportement de deux provinciales envers une vieille dame riche et titrée. Chaque fois que la femme du notaire et la femme du premier président la voyaient dans la salle à manger au moment des repas, elles l'inspectaient insolemment avec leur face à main, du même air minutieux et défiant, que si elle avait été quelques plats en nom pour peu, mais à l'apparence suspecte qu'après le résultat défavorable d'une observation méthodique, on fait éloigner avec un geste distant et une grimace de dégoût. Sans doute par là, voulait-elle seulement montrer que s'il y avait certaines choses dont elle manquait, dans l'espèce certaines prérogatives de la vieille dame et être en relation avec elle, c'était non pas parce qu'elle ne pouvait, mais elle ne voulait pas les posséder. Mais elle avait fini par s'en convaincre elle-même. Et c'est la suppression de tout désir, de la curiosité pour les formes de la vie qu'on ne connaît pas, de l'espoir de plaire à de nouveaux êtres, remplacée chez ces femmes par un dédain simulé, par une allégresse factice, qui avait l'inconvénient de leur faire mettre du déplaisir sous l'étiquette de contentement et se mentir perpétuellement à elles-mêmes, deux conditions pour qu'elles fussent malheureuses. Les deux femmes sont sujettes à ce que Max Scheler a appelé l'auto-empoisonnement de l'esprit, qui présente dans leur cas un aspect paradoxal. D'une part, le mécanisme des raisins qui sont trop verts est supposé calmer l'esprit par la réduction de la dissonance cognitive, selon l'expression des psychologues. Mais d'autre part, il est évident que dans le cas des deux femmes, il s'agit plutôt de production de dissonance. Les observations du narrateur suggèrent que leur malheur vient des effets secondaires de l'aveuglement, de la construction de tout un système de mensonges qu'on se raconte à soi-même et qui finit par dessécher l'esprit et le rendre inapte au plaisir. Puis, toujours dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », dans une réflexion sur l'absurde contentement du soi de père de Bloch, Proust offre un cas contrasté dans lequel l'illusion sur soi-même conduit au bonheur. Et c'est le miracle bienfaisant de l'amour propre que peu de gens pouvant avoir les relations brillantes et les connaissances profondes, ceux auxquels elles font défaut, se croient encore les mieux partagés parce que l'optique des gradins sociaux fait que tout rend semble le meilleur à celui qui l'occupe et qui voit moins favorisé que lui, mal loti, à plaindre les plus grands qu'il nomme et calomnie sans les connaître, juge et dédaigne sans les comprendre. Même dans les cas où la multiplication des faibles avantages personnels par l'homme propre ne suffirait pas à assurer à chacun la dose de bonheur supérieure à celle accordée aux autres, qui lui est nécessaire, l'envie est là pour combler la différence. Il est vrai que si l'envie s'exprime en phrases dédaigneuses, il faut traduire « je ne veux pas le connaître » par « je ne peux pas le connaître ». C'est le sens intellectuel. Mais le sens passionné est bien « je ne veux pas le connaître ». On sait que cela n'est pas vrai, mais on ne le dit pas cependant par simple artifice. On le dit parce qu'on l'éprouve, parce qu'on éprouve ainsi, et cela suffit pour supprimer la distance, c'est-à-dire pour le bonheur. Proust fait ici, me semble-t-il, un usage peu orthodoxe de l'idée d'envie, dite susceptible, ici, de combler les restes de mécontentement que l'amour propre ne serait pas parvenu à faire disparaître. Supposons qu'une personne observe qu'une autre possède un bien qu'elle désire, mais qui lui fait défaut. À cette situation, elle peut réagir soit par l'envie, et donc le désir de détruire ce bien, soit par une transmutation du « je ne peux pas le posséder » en « je ne veux pas le posséder ». Appliqué à cette dernière réaction, le terme d'envie est une déviation de l'usage courant qui est d'autant plus frappante que Proust se sert ailleurs du mot dans son sens usuel, comme dans les observations suivantes sur les réactions que suscitent les succès mondains d'Albertine à Balbec. Ceci, ces succès, exciter l'envie de certaines mères méchantes, furieuses de voir Albertine être reçue comme l'enfant de la maison par la femme du régent de la banque, mère par la mère d'André, qu'elle connaissait à peine. Aussi disait-elle à des amis communs d'elle et de ces deux dames, que celles-ci seraient indignées si elles savaient la vérité, c'est-à-dire qu'Albertine racontait chez l'une et vice-versa tout ce que l'intimité, où on l'admettait imprudemment, lui permet de découvrir chez l'autre. 1000 petits secrets qu'il eût été infiniment désagréable à l'intéressé de voir dévoilés. Ces femmes envieuses disaient cela pour que cela fût répété et pour brouiller Albertine avec ses protectrices. Mais ces commissions, comme il arrive souvent, n'avaient aucun succès. On sentait trop la méchanceté qui les dictait et cela ne faisait que faire mépriser un peu plus celle qui en avait pris l'initiative. Proust fait ici un message tout à fait orthodoxe de l'idée de l'envie. C'est un cas tout à fait exemplaire dans lequel le désir envieux de ruiner la réputation d'Albertine amène la ruine des envieuses. Dans les nombreux travaux sur l'envie, il y a en effet une quasi-unanimité pour dire qu'elle finit par empirer la situation de celui qui la ressent, contrairement à ce que affirme le narrateur dans ses réflexions sur le père de Bloch. Je propose donc de comprendre ce texte comme exprimant deux effets distincts de l'amour propre, la surévaluation de ce qui est sien et la sous-évaluation de ce qui ne l'est pas, et non pas au sens littéral comme une distinction entre l'amour propre et l'envie. Reste à comprendre pourquoi le mécanisme des raisins verts rend malheureuses les femmes de Balbec et heureux le père de Bloch. On pourrait peut-être avancer l'hypothèse que l'amour-propre négatif celui qui ne condamne qu'à la dévaluation des biens d'autrui est moins capable de rendre heureux son possesseur que ne l'est l'amour-propre positif, celui qui opère la multiplication des faibles avantages personnels. Bien que le premier puisse supplier au dernier, comme il le fait chez le père de Bloch, le cas de Fermat Babek démontre qu'il est incapable par lui-même de produire le bonheur. Au psychologue de vérifier cette conjecture. J'aurais pu vous proposer bien d'autres exemples, comme les analyses très fines de la tendance du narrateur à tout remettre au lendemain, tendance à laquelle a fait allusion Antoine Compagnon tout à l'heure, du pouvoir immense de l'autosuggestion, de la germanophilie du Charlus, du snobisme de Le Grandin, ou de l'aveuglement altruiste dont fait preuve la mère du narrateur quand elle parvient, pour faire plaisir à son mari, non seulement à exprimer, mais à ressentir de l'admiration pour M. de Norpois. Faute de temps, je vais simplement conclure en proposant une morale de Proust. Et je vous rappelle l'épisode où Swann parvient à effacer de son esprit l'idée qu'Odette serait une femme entretenue. Il est intéressant, me semble-t-il, de noter le contraste entre cette réaction et celle qui se produit quand Swann reçoit, un peu plus tard, une lettre anonyme qui lui disait qu'Odette avait été la maîtresse d'innombrables hommes et de femmes et qu'elle fréquentait les maisons de passe. Swann se tourmente longuement en se demandant qui a pu en être l'auteur, excluant l'un après l'autre tous ses amis passés en revue. Et un instant, Swann sentit que son esprit s'obscurcissait et il pensa à autre chose pour retrouver un peu de lumière. Puis il eut le courage de revenir sur ses réflexions. Mais alors, après n'avoir pu soupçonner personne, il lui fallait soupçonner tout le monde. Là encore, la pensée désagréable est cause d'une coupure d'électricité mentale. Or, il y en a plus. La suggestion que laisser la question dans l'obscurité aurait été un acte de lâcheté. La morale de Proust rejoint donc ici l'analyse psychologique. Il s'agit d'une morale tout à fait personnelle qu'on pourrait résumer par une formule rendue courante, je le pense, par Louis Althusser, ne pas se raconter d'histoire. Il faut renoncer à s'aveugler, non seulement quand l'aveuglement est susceptible de produire le malheur, comme chez les dames de Balbec, mais encore quand il rend heureux, comme chez le père de Bloch. Merci.